have this old.
I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do.
Et bienvenue sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis. Et avec nous aujourd'hui dans le studio, Marion Grenier. Bonjour Marion.
Bonjour Anaïs.
Et c'est une carte blanche à Anne-Laure Pommier. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Qui donc va nous parler de son spectacle qui s'appelle Le Bonheur Conjugal, un spectacle qu'elle a créé et adapté d'après Tolstoï. Et avec nous dans le studio aussi Combor. Salut Combor.
Coucou.
Qui est là pour faire en sorte que tout se passe bien à la technique, sinon sans cela il n'y aurait pas eu d'émission vu que je n'avais pas actionné les bons micros et les bons trucs techniques. Eh bien, aujourd'hui, en fait, on va co-animer toutes les deux avec Marion cette émission pour un peu en savoir plus sur ton spectacle, Anne-Laure. Et déjà, pour nous dire un petit peu ce qu'il en retourne après Tolstoï.
Alors, est-ce que peut-être tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens?
Alors, mon parcours, ma vie. Je fais du théâtre depuis une quinzaine d'années, on va dire, à peu près. J'ai commencé avec Combor. Enfin, j'ai pas vraiment commencé, mais j'ai démarré le théâtre professionnel et militant avec Combor, voilà. Pour parler de moi, voilà, c'est tout. Que dire d'autre?
Juste en deux mots, théâtre militant, qu'est-ce que tu entends par là?
Je fais plus vraiment du théâtre militant comme je faisais avec Papier Froissé, mais c'est autre chose, justement. On en parlera si vous voulez, de Tolstoï et de son militantisme, qui est, à mon avis...
Tout relatif.
Relatif, mais moi, c'est vraiment un homme révolté, voilà, c'est vraiment un révolté pour moi, Tolstoï. Donc, et je pense être assez proche de lui sur pas mal de points, voilà. C'est autre chose, cette nouvelle... En fait, il y a dix ans, j'avais créé un texte qui s'appelait L'Initiation. C'était une sorte de conte d'apprentissage d'une jeune fille qui avait été élevée avec des bonnes, certains principes, certaines voilà idées du bien, du mal, et voilà. Et elle se voit confrontée, elle se confronte plus tard à la vie et donc elle essaie de faire face à, avec ses convictions, avec ce qu'on lui a appris à vivre, tout en gardant ses convictions, elle essaie de quand même de vivre au milieu du monde, quoi. Et c'est pas évident, enfin voilà.
C'est un parcours initiatique.
Voilà, c'est ça, un parcours initiatique. C'est, en fait, ça m'intéresse depuis longtemps. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on devient ce qu'on doit être? Qu'est-ce qui fait qu'on va prendre tel chemin? Les influences que les autres ont sur nous, qui nous forment et qui nous déforment, des fois pour le bien ou le moins bien. Comment voilà, et nous dans tout ça on est qui, quoi? Est-ce que je suis mais on est toujours en train de se faire et de se défaire, mais ça c'est sûr, mais il y a une base quand même qui est nous et qui revient à la surface souvent, enfin je crois.
Donc ça c'est vraiment une problématique constante dans ton travail et dans tes créations.
Ouais, bah c'est la deuxième.
C'est là aussi, d'accord, qu'on peut faire un petit parallèle avec Tolstoï. Ouais. Tu dis que tu te sentais très proche de lui parce que constamment il a posé ces questions, que ce soit dans ses nouvelles ou dans ses romans, du parcours initiatique, de la place de la psychologie humaine et du rapport aux autres. C'est quelque chose d'assez important. Oui, chez lui.
Oui, en tout cas, Tolstoï, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup observé, qui pensait que se connaître soi-même, c'était pas quelque chose de... C'était pas être égoïste, c'était juste... plus on se connaissait, et plus on pouvait être juste envers soi, en tout cas envers être sincère, et pas jouer un rôle, pas jouer être soi-même, et mieux connaître les autres, et mieux peut-être aussi les accepter. Quelqu'un qui était assez obsédé par l'idée quand même de mener une vie bien, donc c'est là que... On peut entendre des dents grincer, mais oui, l'idée du bien et l'idée de... Mais qui s'imposait à lui d'abord. Après, les autres, à la limite, s'ils voulaient le suivre, ils le suivaient. Bon, il a été pas mal suivi, mais il y avait beaucoup de gens qui l'admiraient dans son pays. Mais aussi, une radicalité. Il était voilà, très exigeant, très radical envers ses convictions, enfin.
Ouais. Pour en revenir du coup donc à la pièce, donc ça s'appelle Le bonheur conjugal. Pourquoi est-ce que c'est d'après Tolstoï en fait? C'est parce que tu l'as.
Oui, c'est une adaptation. La nouvelle fait 130, 140 pages et voilà, là, le texte dure 1h05, 1h10. De toute façon, c'est écrit à la première personne, donc c'est bien le personnage que je joue, c'est la narratrice de la nouvelle.
On va expliquer aux auditeurs peut-être l'histoire. Oui. Tu m'arrêtes hein, ou tu complètes. Donc, si j'ai bien compris, c'est les espoirs et désillusions d'un couple qui vit une relation intense, passionnée. Et c'est l'histoire en fait amoureuse d'une jeune aristocratique qui s'appelle Masha, qui est russe et donc au 19e siècle et qui vit à la campagne avec son mari et qui en fait découvre un jour les fastes de la ville et peut-être c'est ça qui crée en fait une sorte de brèche dans leur couple et vient en fait à remettre en cause leur bonheur conjugal qui s'était créé, c'est ça?
Oui, voilà. En fait voilà, c'est une jeune femme orpheline qui vit donc dans un voilà qui est une aristocrate, mais bon, qui a plus une grande fortune, mais voilà, qui vit quand même bien, qui a pas besoin d'aller bêcher la terre pour se nourrir, et qui va tomber vraiment amoureuse de son tuteur qui est beaucoup plus âgé qu'elle et qui lui a déjà vécu, a connu qui est allé en ville, qui s'est perdu dans des choses et trouvé, enfin il a fait son éducation, il a fait son apprentissage de la vie et donc il est prêt maintenant, il sait ce qu'il veut, il sait que pour lui le bonheur il est là à la campagne, et vivre au milieu des paysans. Donc là on retrouve vraiment Tolstoï, c'est vraiment Tolstoï était heureux au milieu de ses paysans plus qu'à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Et donc là la jeune fille, elle qui a 17 ans, bon au début comme elle est amoureuse, elle croit que le bonheur que lui propose son mari va lui convenir. Et en effet, au début, c'est quand même deux mois assez magnifiques. Et après, bon, elle commence à s'ennuyer. Voilà, donc elle a envie, elle a 17 ans, 19 ans, 18.
Deux mois, c'est pas beaucoup pourtant.
Ouais, deux mois, c'est très vite, elle se rend compte qu'elle va vite s'ennuyer. Elle vit chez sa belle-mère, et tout est réglé, figé. Elle commence à étouffer, voilà, ce qui peut se comprendre à son âge. Elle a envie de voir autre chose, elle a envie de voir si voilà, elle a envie de découvrir la vie que son mari, lui aussi, a découvert quand il était plus jeune, donc ce qui est tout à fait normal. Et ils vont donc à Saint-Pétersbourg, donc. Et là.
Ensemble.
Ensemble, ouais, son mari, enfin, il dit bon, bah, allons en ville. Mais nous reviendrons quand même à la campagne avant Pâques, hein. Nous y allons juste pour une petite période, si tu veux, pour que tu connaisses. Si tu as vraiment envie de connaître, pas de problème. Et il est assez paternaliste, hein, son. Très, voilà. Et donc, ils vont à Pétersbourg, et là, elle se laisse séduire vraiment par. Ils vont dans les balles, parce qu'évidemment, à l'époque, voilà, en tant qu'aristocrate, on sortait dans les balles, à l'opéra. Et bah voilà, elle trouve ça séduisant. Tous ces gens, elle est très jolie. Ces gens la regardent, elle a d'autres regards que son mari sur elle. Et donc voilà, ça la flatte. Voilà, il faut le dire. Et peu à peu, elle va trouver que c'est encore plus intéressant que d'être avec son mari. Enfin, elle oublie peu à peu tout ce qui l'intéressait quand elle vivait uniquement, enfin, avec son mari à la campagne. Donc le piano, la lecture. Les promenades dans le jardin. Et voilà, donc elle se nourrit de de ce monde là, de cette, voilà, jusqu'à l'ivresse.
C'est étonnant que Tolstoï ait gardé ce titre, le bonheur conjugal, qui sonne finalement assez ironiquement.
Oui, c'est vrai que on pourrait dire, en fait, en plus, cette nouvelle, il l'a écrite 3 ans avant son mariage, et ce qui est vraiment. C'est ça qui m'a aussi surprise, parce que il y a dedans cette nouvelle, qui est une œuvre de jeunesse, donc il avait 34 ans, tout ce qui après va vivre dans sa vie, lui-même conjugale avec sa femme.
Une écriture prémonitoire.
Oui, on dirait, il s'est marié avec une jeune femme plus jeune, et qui aussi, à un moment donné, préférait vivre à Moscou qu'à Yasnaya Polyana, dans leur domaine. Donc, voilà, c'est. Et voilà. Donc, oui, donc le bonheur, oui. Est-ce que c'est. En fait, c'est comme une interrogation sur le bonheur et sur la vie de couple aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on. Voilà. Sur le bonheur. Quel est le bonheur? Et la différence entre le bonheur et le plaisir. Le plaisir qu'on peut éprouver en se laissant, voilà, joyeusement flatter, en se faisant. Et le bonheur peut-être plus profond qu'on a quand on a réussi à déchiffrer une partition de musique et nous semblait, voilà, c'est, il fait vraiment cette distinction là entre et après il dit bah voilà, libre à vous de choisir ce dont vous avez le plus besoin pour vivre. Est-ce que vous avez plus besoin de plaisir ou de bonheur qui voilà,
vaste interrogation. En fait, c'est un peu un auteur du désenchantement, un auteur de la désillusion, plus que.
En tout cas, dans ses romans, oui, ses romans, oui, c'est sûr, c'est oui, c'est quand même quelqu'un, oui, c'est vrai que c'est lui-même, il était marqué par ça. Il était marqué par beaucoup de choses. Ce qu'on peut voir quand même. Moi, j'ai pas lu beaucoup de choses, hein, de Tolstoï. J'ai pas lu ses grandes œuvres. J'ai pas lu Guerre et Paix. Et j'ai pas lu Anna Karenine jusqu'au bout. J'ai lu pas mal j'ai lu sa correspondance, j'ai lu ses écrits, ses journaux intimes, ses journaux, son journal quotidien. J'ai lu la sonate à Kreutzer, j'ai lu des choses qu'avait écrite sa femme, j'ai l'impression de le connaître un petit peu, pas. Et voilà, c'est vrai qu'il est marqué, comme c'est quelqu'un qui a l'impression d'être un privilégié parce qu'il est né, il est né comte, dans il a un grand domaine, et toute sa vie, ça l'a profondément, il a lutté contre ça, il voulait pas être un privilégié, vraiment pas. Quand il se promenait avec ses paysans et que lui savait qu'il était d'une autre condition, et c'était insupportable pour lui, vraiment insupportable. C'est pour ça qu'il a tout fait pour sortir. Il a créé une école, il a affranchi les serfs avant l'abolition officielle par le tsar. Donc c'est voilà, quelqu'un qui avait honte souvent de sa condition de privilégié, ouais.
Donc un grand défenseur de la liberté, du bien.
La liberté, alors est-ce qu'on Moi, je, un grand défenseur, quelqu'un qui était en tous les cas contre toutes les oppressions, qui contre l'État, contre la, la religion telle qu'elle était à l'époque, et comme elle pourrait être encore aujourd'hui. Vraiment une haine de l'argent même. Alors sa femme des fois se moquait de lui. Oui, ben t'as beau jeu d'être contre l'argent, mais t'es bien content de le trouver. Et t'en as quoi. Donc, mais il a abandonné pas mal de choses. Il a abandonné tous ses droits d'auteur. Il donnait des fois des œuvres aussi. Enfin, il voulait vraiment se libérer si de tout ce qui pouvait l'empêcher d'être quelqu'un de bien. Et il pensait que l'argent, en tout cas, pouvait et corrompre son âme. C'est vrai qu'il est voilà.
Donc sans pour autant le qualifier de progressiste, en par rapport à lui-même et par rapport à sa vie et ce qu'il considérait comme être bien dans sa vie, si tu dis que voilà, il a aboli, enfin il a affranchi ses serfs, il a mené une vie qui voulait en fait en accord avec ses principes.
Mmh. Ouais.
C'est vrai qu'on le connaît pas, on connaît pas Tolstoï comme un militant
non.
public
c'est
en
vrai.
Fait,
non, c'est vrai.
De la liberté, mais plus un, peut-être que c'était plus pour coller à son idéal personnel de vie.
C'est ça.
Et du coup,
oui,
je pense, c'est, ouais. voilà.
C'est vrai que c'est pas quelqu'un, en effet, on va plutôt citer Dostoïevski ou Solzhenitsyn comme voilà, auteur russe, enfin, plus tard, ils sont Solzhenitsyn plus tard, mais comme auteur militant qui ont payé cher de leur vie pour
leur
engagement. Mais Tolstoï, pour moi, c'est quelqu'un, en tout cas, qui a voulu toute sa vie mettre sa vie en accord avec ses principes, enfin ses principes ou ses convictions jusqu'au bout, quoi, jusqu'au bout. Alors, et progressiste Tolstoï, ça peut faire sourire aussi, parce que c'est vrai que par exemple, alors moi, ça m'a beaucoup interrogée justement sur la femme, parce que on me l'a aussi pas mal
posé comme question.
Ouais, voilà, bien sûr, Tolstoï et la condition féminine. Alors, on est au 19e siècle, attention aussi, hein, voilà.
En Russie, oui,
et dans un milieu aristocratique. Donc, et alors, voilà, il se trouve que sa femme a eu 15 grossesses et 13 enfants, et que lui, il a imposé à sa femme d'allaiter, par exemple. Il dit voilà, parce que il voulait pas prendre une nourrice, c'était parce qu'il était contre les emplois domestiques. Il dit t'as du lait, tu vas pourquoi employer quelqu'un qui, il trouvait ça justement encore une fois lié à ses privilèges, et t'as de l'argent, bah tu vas employer quelqu'un pour faire ça, pour faire ci. Et lui, ça, c'était pas supportable. Alors c'est vrai qu'il a imposé à sa femme des conditions de vie assez dures, parce que imaginez, donc 15 grossesses, donc plus les allaitements, plus, c'est-à-dire que pendant plus de 25 ans de sa vie, sa femme, ça a été s'occuper des enfants et tout, elle faisait la couture, elle faisait le repas, le ménage. Pour une comtesse, c'était quand même particulier, et fallait l'accepter. C'est vrai que du coup, il y a eu des c'est pour ça que les écrits de sa femme des fois sont très durs envers lui. J'ai lu un livre qu'a écrit sa fille et qui remet un peu les choses, voilà, qui essaye de trouver une certaine justesse ou voilà, dans justice ouais, entre les deux, enfin voilà, pour trouver, dire voilà, qui est. Et c'est vrai que voilà, en effet, il a imposé à papa. Bon, alors on trouve ça. C'est vrai que c'est. Moi, ça m'a beaucoup interpellée. Tout, c'est forcément quoi.
Mais dans Le Bonheur Conjugal, c'est donc Macha qui parle à la première personne.
Oui.
Uniquement ou.
Oui. Alors deux fois, il y a le. Je joue un peu son mari. Et puis la gouvernante, parce que voilà, ils avaient une gouvernante quand elle était.
Donc il a quand même été très proche de cette femme. Enfin, il a créé cette femme, il a parlé au nom de cette femme. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est.
Oui, c'est très juste. C'est incroyable c'est juste. Comme il décrit
les sentiments féminins.
Ouais, enfin, magnifiquement, comme la naissance de l'amour. Oui, la naissance de l'amour dans cette jeune fille là, quand vraiment elle se rend compte que qu'elle est amoureuse, c'est vraiment. Ouais, c'est. C'est très bien, c'est très beau. Enfin, moi, voilà, j'ai trouvé ça magnifique, magnifiquement bien écrit.
On va peut-être faire une petite pause musicale. Est-ce
oui.
que tu nous proposes une sélection russe, combat ?
Un russe, comme l'a demandé Anne-Laure Shostakovich. Thank you. C'était un extrait de la symphonie numéro 9 de Dmitri Shostakovitch, le mouvement Presto.
Merci Combor.
Et donc nous sommes toujours avec Anne-Laure Pommier pour parler du bonheur conjugal à l'émission Théâtre de la Gamelle. Un texte donc de Léon Tolstoï qui avait un grand souci de développer un art accessible, un art qui soit... on va pas parler non plus d'un art populaire, mais d'un art du moins pour tous, puisqu'il avait un souci que ce soit compréhensible et même qui donnait envie de que ces romans soient lus par les paysans eux-mêmes.
Oui, en fait, Tolstoï, il pensait l'art avait une fonction, en fait, je pense pour lui. Enfin, peut-être que il y a, je m'avance un peu, mais je pense que ouais, il, pédagogique, vraiment pédagogique et. Pour lui, juste l'art pour faire des belles phrases ou des belles, un exercice de style, ou de, mais c'est ce que je dans un dans des livres qui traitent de la question de Tolstoï et du rapport de Tolstoï et de l'art, on dit c'était le cas de beaucoup de Russes de l'époque et puis même encore maintenant, ça se trouve de, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de peut-être nous qu'on a perdu en Occident, enfin en Occident, en tout cas dans notre Europe de l'Ouest, voilà où en effet, ben à un moment donné, enfin forcément, on s'interroge quoi. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que les gens sont prêts à défendre l'art? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont au théâtre? Est-ce qu'on défend? On n'a pas l'impression de que ce sont uniquement les gens du théâtre qui vont au théâtre et enfin je.
Oui, bon, c'était un peu un précurseur de ce combat qu'on mène encore aujourd'hui de la démocratisation culturelle, de l'art pour tous.
Ouais.
Bon, c'est un peu des raccourcis, mais il a beaucoup voyagé. Il avait une opinion, je crois, très tranchée sur l'éducation en Europe et en Russie. Ouais. Il trouvait qu'on faisait des enfants, qu'on créait des esclaves, qu'on apprenait les choses bêtement, on leur apprenait à répéter les choses bêtement sans réfléchir.
Ouais, c'est sûr. Oui, c'est pour l'émancipation de. Voilà. Oui, il pensait que toute personne devait être, devait sortir de des gonds peut-être dans lesquels on l'avait mis cette personne quoi. Et
on disait de lui que c'était un pédagogue hors du commun.
Ouais, c'est un vrai
pourquoi
pédagogue. Ben, disons, déjà, parce que c'est un fin observateur. Il observe, vraiment. Il observe, il note tout. Tout ce qu'il écrit, c'est qu'il l'a vu ou regardé ou observé. Pour lui, il va pas écrire quelque chose qu'il n'a pas senti. Il y a une vraie sincérité chez lui. Ça, c'est indéniable. Enfin, une sincérité même qui poussait à l'extrême, je dirais. Enfin, et du coup, voilà, il a observé. Donc, ces paysans, ils vivaient avec eux. Donc, il a bien vu dans quel état ils étaient, dans quel état de... Donc, il a créé une école pour les enfants des paysans dans son domaine. Et il a voyagé aussi, voilà, pour essayer d'étudier toutes les théories pédagogiques qu'il y avait en cours. Il a beaucoup critiqué celle de notre Europe à nous, voilà, France. Où on faisait des enfants, en effet, brimés, voilà.
J'ai bien aimé la phrase dont tu as parlé tout à l'heure, Marion, en antenne. Tu disais, alors je ne sais pas si c'est une citation de Tolstoï qui dit « On fait partout à l'école l'apprentissage de la servitude ». Et du coup, c'était une façon de dénoncer cet apprentissage mécaniste.
C'est ça. Et alors, ça va très loin chez Tolstoï. C'est pour ça que des fois, il a été critiqué vivement, mais parce que ça va jusqu'à. On pourrait. Mais tout ce qui entrave la personne de... Mais parce qu'il avait... Enfin, suivant son idée aussi, toujours à lui, hein, qu'il avait d'être quelqu'un de bien. Et donc, ben, par exemple, on peut parler sur la sexualité aussi, sur la... C'est... à un moment donné aussi devient une... La femme, il disait que la femme, elle n'avait pas à être l'esclave sexuel de l'homme, et qu'à un moment donné, ben voilà, tant que la femme était belle et jolie et tout ça, ça allait. Mais après, donc ça, c'était pas une unique. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a rejeté aussi les rapports charnels, parce qu'il trouve, enfin les rapports dans la sonnette de Kreutzer surtout, c'est assez violent, mais parce qu'il pense que c'est pas si le couple, il est uniquement, enfin il y a que ça, ça risque de
Alors que au lieu de développer le plaisir féminin, ouais, elle a dit plus de rapport sexuel du tout.
Presque
quoi,
plaisir du tout.
Sa femme c'est beaucoup moqué aussi, parce que tous les soirs il allait la rejoindre dans son lit. Donc il était très charnel, en plus très charnel, très sensuel. Et il a sa femme, il avait toujours envie d'elle. Donc il luttait lui-même contre ses propres pulsions. Il savait que ses propres pulsions allaient il était. Et il y en a qui ont critiqué, on dit ouais, comme chaque fois qu'elle était enceinte, elle, la pauvre, elle disait mais c'est la post-phase de la sonnette à Kreutzer. C'est hop, de nouveau une. Comment elle est, donc c'est un peu.
Ça se ressent, ça, dans ses écrits et dans Le Bonheur Conjugal, notamment ce rapport charnel.
Dans le rapport charnel, c'est un peu. Alors le Bonheur Conjugal, c'est une œuvre de jeunesse. Il n'y a pas encore tout ça. C'est très. C'est. On voit pas ça. Il y a pas encore. C'est plutôt sur la psychologie, plus que, enfin, sur le. Il y a pas vraiment ça. Il y a pas. La question se pose pas trop dans Le Bonheur Conjugal, de cette la question charnelle, en tous les cas. C'est plutôt sur le comment ils veulent, comment ce couple va continuer à vivre, en sachant que ils ont traversé cette crise, enfin que elle a compris des,
c'est pas la même question, du coup. Non. La question vraiment centrale du bonheur conjugal, c'est qu'est-ce que la libération. Est-ce que c'est vivre à la campagne, dans la nature? Est-ce que c'est ça, se sentir libre? Ou ouais, au contraire, est-ce que c'est pas un rétrécissement voilà, du monde? Est-ce que c'est pas un enfermement?
C'est exactement
des questions.
C'est tout à fait ça. C'est à un moment donné, voilà, c'est que pour lui, la campagne, c'est le lieu où on peut s'épanouir, pour lui, vraiment. Comme Tolstoï s'épanouissait à Yasnaya Polyana. Il était là, et elle, à un moment donné, elle va plus. C'est pour elle, c'est un rétrécissement, cette vie campagnarde, comme où elle voit personne à part. Enfin, pour elle, c'est plus supportable. Et à la ville aussi, il y a l'autre projet de vie, qui est donc de vivre à Saint-Pétersbourg, rempli de visites, de plaisirs mondains ou non mondains, mais voilà, de peut-être on pourrait dire de plaisir qui s'achète plus facilement, où le plaisir on trouve à l'extérieur et pas en soi,
de
pas
la consommation,
voilà, de voilà, d'aller, voilà, en tout cas on va chercher du divertissement, voilà, des pour et lui, ça c'est pas, c'était, c'est il Tolstoï en tous les cas, et puis même le personnage le Serge, le personnage, le mari de cette femme, pense que la ville est, enfin la société, parce que elle ne peut pas te permettre d'atteindre
une plénitude,
un épanouissement, c'est pas possible, parce que voilà, c'est pas, ça t'éloigne au contraire de toi.
Et ce qui est très intéressant dans la mise en scène que tu proposes, et dont on rappellera les dates, je pense, en fin d'émission, c'est justement cette mise en abîme, ce symbole que tu as fait en jouant sur la verticalité, tu vas peut-être nous en parler, pour parler en fait de ces étapes-là que sont campagne, ville, enfermement. Et du coup, ces choix en fait artistiques que tu as fait au niveau de la scène, si tu peux nous en parler.
Oui, alors en fait, quand on l'a créé l'année dernière pour un festival russe, le 9 août l'année dernière, bon, c'était on avait, comment, on devait faire les choses un peu rapidement, et qu'on jouait dans une salle des fêtes, donc on avait apporté plein de choses qui on avait apporté plein de poupées russes, par exemple. Voilà. Mmh. Et toutes les poupées russes, moi j'avais un petit peu peur que tomber dans les clichés, trouver que bon, voilà, la Russie et poupées russes, ça faisait un peu trop. Mais en fait, ça s'est bien passé. C'était, donc les personnages, des fois, étaient des poupées, je leur parlais, ces petites poupées. Puis c'est vrai que c'est assez, ça crée un univers. Voilà. Il se trouve qu'il y a eu, dans le public, il y a eu beaucoup beaucoup de monde. C'est là qu'on voit que Tolstoï avait quand même intéressé, et il y avait même des enfants qui ont écouté jusqu'au bout, et ça m'a vraiment plu, enfin ça m'a fait plaisir de me dire ah ben chouette. Mais je pense aussi, voilà, c'est le fait qu'il y ait ces poupées, c'est pas évident, un monologue, un texte littéraire qui est pas c'était pas une pièce de théâtre, donc. Et là, on va. Alors là, on travaille un peu plus en précision et la scénographie où on a décidé de partir sur des une sorte de poteau, enfin de forme verticale qui pourrait symboliser à la fois les arbres,
la forêt, la partie campagne, voilà. Les balades,
voilà.
La liberté,
voilà.
La légèreté.
Et puis à un moment donné, c'est des personnages aussi. Et puis quand on les dispose d'une autre manière, ça peut être enfermant. Et voilà,
quelque symboliser chose des barreaux de prison.
Voilà, des choses qui nous empêchent de sortir. Et c'est vrai que ce qui est important aussi donc chez Tolstoï et dans ce roman tout à fait dans cette nouvelle, c'est l'importance donc de la musique. C'est pour ça que c'était important que Combor soit là pour nous mettre de la musique. Et puis la musique et la nature. Tolstoï c'est vraiment un auteur vraiment proche, très proche de la nature. Et la musique aussi toute sa vie l'a accompagné, voilà.
Depuis 35 minutes, on entend parler de oui, le temps passe vite, c'est du bonheur conjugal, donc d'après Léon Tolstoï, de ses personnages Macha et Serge. Est-ce que tu pourrais nous en lire un extrait?
Alors,
s'il te plaît.
Oui. Je vais vous lire. Peut-être. Un passage de.
Pour nous faire entendre aussi cette langue.
Alors.
En russe.
Oui, en russe, bien sûr. Oui, évidemment, j'entendais comme ça. Hein. Alors. Donc, peut-être. Alors, je sais. Est-ce que je. Un passage. Peut-être un petit passage peut-être du début, un petit passage du milieu, un petit passage de la fin.
Parfait.
Pourquoi pas.
Sans tout nous dévoiler.
Ouais,
non
ça.
Plus, hein.
Alors donc quand elle retrouve son tuteur, là en fait, elle vient de perdre sa maman. Elle est donc orpheline maintenant. Son père était déjà mort. Et donc ils attendent leur tuteur pour savoir un peu comment ils vont vivre maintenant. Voilà. Donc, le tuteur, Serge. Hein. Il y avait 6 ans que je ne l'avais vu lorsqu'il arriva en mars. Serge Mirailovitch. C'était un voisin et un ami de notre défunt père, bien qu'il fût beaucoup plus jeune que lui. J'étais habituée depuis l'enfance à l'aimer et à le respecter. Et il avait pour moi une importance particulière due à un mot que maman avait prononcé devant moi. Elle avait dit que c'était un mari comme cela qu'elle désirait pour moi. À l'époque, cela m'avait paru surprenant et même désagréable. Mon héros était tout différent. Mon héros était mince, décharné, pâle et mélancolique. Serge Mirailovitch, lui, n'était plus de la première jeunesse. Il était grand, corpulent et, à ce qui me semblait, toujours gai. Voilà, donc là, c'est juste...
Suspense.
Voilà. Voilà, pour montrer que voilà, forcément à 17 ans on se fait une petite idée, on se dit bon est-ce que déjà je veux me marier, si je reste là personne va, et ma vie ça va être quoi, est-ce que dans ce trou perdu, vraiment elle dit à un moment donné j'ai l'impression d'être je l'ai jamais rencontré. C'est vrai, c'est un peu le problème quand on vit à la campagne. On dit bon mince et peut-être un autre passage.
C'était l'émission aujourd'hui.
Alors peut-être le passage où quand ils viennent de se marier, des jours, des semaines, 2 mois de vie campagnarde et solitaire passèrent. Les sentiments, les émotions et le bonheur de ces 2 mois auraient suffi pour toute une vie. Nous étions animés par ce sauvage enthousiasme. Nous rions, jouions comme 2 adolescents, heureux de nous retrouver après les obligations de la journée. Nous lisions beaucoup ensemble, mais la musique était notre plus grand plaisir, notre plaisir préféré. Chaque fois, la musique nous faisait nous découvrir à nouveau l'un à l'autre. Si je jouais, il s'asseyait et m'écoutait. Quand j'avais fini, j'allais m'asseoir près de lui et je lisais dans ses yeux les traces de son émotion. Non, notre vie n'était pas inférieure à nos rêves. Voilà. Et peut-être un petit extrait sur la... Euh,
La fin, mais pas la toute fin.
Non, non. Voilà, voilà. Quand ils sont donc en ville, par exemple. Alors, on me rapportait qu'il n'y avait pas de femme comparable à moi à Pétersbourg. Je n'avais qu'à vouloir pour être la femme la plus recherchée de la ville. De tous côtés, des compliments. Et puis il y eut le premier bal. Lorsqu'on me demanda si je voulais bien m'y rendre, j'ai rougi si fort que mon mari s'était moqué. On dirait une criminelle qui avoue l'objet de ses désirs. Ben, j'ai très envie, mais je sais qu'il vaudrait mieux pas. Si tu en as très envie, il faut absolument y aller. Le monde est une calamité, mais les désirs mondains inassouvis, c'est à la fois mauvais et inélégant. Nous irons. Nous y sommes allés. Et le plaisir que j'ai éprouvé dépassait mon attente. J'avais le sentiment que j'étais le centre autour duquel tout tournait. Une foule de gens qui me portaient au nu. J'étais tout à fait différent des autres femmes. Il y avait en moi quelque chose de particulier, de campagnard, de simple et de charmant. Ce succès me flatta terriblement. Et j'ai dit à mon mari que j'aimerais aller encore à 2 ou 3 bals pour en être rassasiée.
Merci beaucoup.
C'était le chorus d'une des multiples cantates de Bach. Et ce chorus, parce que ça n'était pas du russe, malgré qu'on dise chorus, c'était du latin, mais c'était le titre, c'était « Pourquoi es-tu si tourmenté, mon cœur ?»
Waouh. Merci, Combor.
On en a un petit peu parlé tout à l'heure, voire on a bien abordé le sujet, mais Tolstoï a fait des écrits sur l'art et il a eu l'occasion de théoriser un peu sa position par rapport à l'art pour tous. Je crois que tu peux peut-être nous en parler.
En fait, ouais, surtout à la fin, c'est vrai qu'il a eu, il a eu une crise mystique quand il avait 70 ans, je crois, 70 ans. Et vraiment, il a rejeté tout ce qui pour lui ne permettait pas de. En fait, ce qui l'intéressait, c'est juste ce qui pouvait aider à améliorer, ce qui pouvait
contribuer à l'émancipation
au perfectionnement. Enfin, surtout, il pensait que tout ce qui pouvait l'éloigner, tout ce qui pouvait nous éloigner de notre chemin, qui le but, c'est vraiment d'être quelqu'un de bien pour lui. Et c'est vrai qu'il disait qu'à un moment donné, enfin, l'art, il pensait que ça pouvait, il avait de l'espoir que l'art pouvait changer changer le monde, oui, pourquoi. Et que quand il voyait autour de lui tout ce qui se passait, il disait que, en fait, non, que l'art, il était fait uniquement pour une certaine classe qui avait les outils pour comprendre, que la plupart des gens n'y avaient pas accès.
Tu peux nous lire quelques extraits de... Donc ça s'appelle Qu'est-ce que l'art, c'est ça?
Oui, en fait, voilà, mais alors on ne trouve plus. Alors c'est juste un extrait que j'ai trouvé dans un livre de Dominique Fernandez où il en parle. Donc, alors, c'est vrai que c'était assez violent, ça. Il dit donc, l'art est-il digne des sacrifices qu'on fait pour lui? Mérite-t-il de survivre étant donné le prix exorbitant qu'il coûte en labeur et en argent? Des milliers d'ouvriers s'épuisent à produire de l'art qui ne profite qu'à une élite de connaisseurs. Est-ce juste? Les subventions d'État proviennent de l'impôt qui est payé par le peuple, lequel doit se priver du nécessaire au bénéfice d'œuvres dont il n'est même pas admis à avoir la jouissance, peut-on l'admettre? Cette première constatation amène Tolstoï à douter que certaines productions, qui ne sont faites que pour certaines classes sociales, les classes supérieures, puissent être considérées comme de l'art. Donc vraiment, il dit, si ça intéresse qu'une certaine partie, est-ce que c'est vraiment de l'art, quoi, si c'est uniquement réservé à une petite classe. Il rejette la plus grande partie de l'art moderne, jugée obscure, difficile, hors de portée du grand nombre, réservée au plaisir de quelques-uns. Voilà, en fait, voilà, c'est vrai qu'il s'est, ça, c'est très présent chez lui, voilà. Et juste, voilà, pour finir, voilà, sur ça, c'est vrai que, juste parler de ma grand-mère qui lisait Tolstoï, voilà, qui était une paysanne et qui lisait Tolstoï. Voilà.
C'est très contemporain. Et, juste une petite réflexion sur ton choix de mettre en scène Tolstoï, qui est un auteur plutôt de romans et de nouvelles, qui a fait très peu de théâtre, si je me trompe pas. Donc c'était difficile. Comment tu as approché ce texte littéraire, comment tu l'as adapté au théâtre?
Ça peut peut-être être l'occasion du coup de parler de ta compagne aussi.
D'accord, voilà, tout à fait, très bien. Donc en fait, c'était un coup de cœur, je l'ai lu comme ça, pour vous avouer quelque chose, c'était la première chose que je lisais de Tolstoï. Donc, je l'ai lu et j'ai trouvé ça, ça m'a tout de suite plu. Donc, je l'ai relu et puis je me dis, mais je vais faire quelque chose au théâtre avec, c'est obligé, enfin voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas, mais comme un élan, sans trop y réfléchir. Et puis après, il y a eu cette proposition du festival russe, on avait des contacts avec ce festival. Et voilà, j'ai cherché les soutiens qui allaient pouvoir m'aider dans cette aventure. Donc, avec un très grand ami, Cyril Cagnesson, on a créé une compagnie il y a 10 ans, Actias Luna, où on avait fait l'initiation. Donc, on s'est dit que cette compagnie allait pouvoir être à l'origine de ce projet. Et après, donc, on a trouvé des partenaires comme Le Désordre. Donc, Cyril Cagnesson est un homme de théâtre lyonnais, c'est très bien dire. Voilà. Donc, et il met en scène, il fait la création sonore des lumières et aussi le décor. Alors on est en train de faire, on fait tout en fait. Et Le Désordre, donc un grand merci donc à la compagnie Le Désordre qui coproduit ce spectacle, qui nous aide, qui le coproduit, qui nous apporte tout son savoir-faire depuis plusieurs années. Et puis voilà, ça sera à l'Espace 44. Donc on est en...
Je vais peut-être rappeler les dates. Donc ça joue du 13 au 18 mars tous les soirs à 20h30. Et le dimanche à 16h à l'espace 44. Donc l'espace 44, pour ceux qui ne le savent pas, c'est au 44 rue Burdeau, dans les pentes de la Croix-Rousse. Et donc, vous avez bénéficié d'une résidence ou vous l'avez créée dans un endroit particulier, ce...
Non, là, enfin, on est co-réalisation, c'est ça, avec l'espace 44, voilà, qui nous accueille une semaine. Et,
Mais c'est la première fois que vous rejouez ce spectacle depuis le 9 août dernier.
Ouais.
J'imagine que vous êtes en recréation un petit peu.
On retravaille pas mal de choses.
Avec le fameux nouveau décor.
Voilà. Voilà, on essaye de préciser tout ça, d'approfondir les choses, on verra bien. Voilà.
En tout cas, le petit fly est très joli. Tu me disais que c'est un tableau de Van Gogh.
Oui.
Il est très beau, en fait. C'est un homme et une femme dans une forêt. Et je pense que ça résume très bien.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est un homme et une femme dans une forêt, c'est le bonheur conjugal.
Le bonheur conjugal, c'est ça.
Selon Van Gogh, selon Tolstoï. Non, selon Tolstoï.
Et Anne-Laure Pommier.
Ouais, alors moi je suis quand même une citadine, hein, c'est vrai que... Mais par contre, ouais, son... Ouais, sa radicalité, parfois, fait écho à la mienne. Mais bon, je veux pas au bout pour l'instant de tout ce que j'aimerais, mais voilà.
On peut redire les peut-être.
Oui, on peut redire les dates.
Tarif aussi, c'est important.
Ah oui, du 13 au 18 mars donc, et à 20h30 à l'espace 44 le dimanche à 16h. Et donc les tarifs.
Alors les tarifs, on les a pas marqués parce qu'on a. Je crois pas.
C'est pas marqué.
Non, parce qu'on a.
Mais je crois que c'est 11 et 13 euros.
Ouais,
c'est
non,
ça.
Non, malheureusement, c'est plus cher. Là, c'est pour ça. Un jour, il faudrait faire un colloque sur les tarifs. Parce que, bon, nous, on a.
On a essayé il y a quelques années. Hein.
Comment ?
On a essayé il y a quelques années, mais il y a tellement d'avis divergents.
Bah ouais, mais moi qui. Pourtant. Enfin, je trouve que c'est 15 euros en tarif plein. Et après, les tarifs, donc, dégressifs suivant la situation. Mais c'est quand même très cher. Voilà, je reconnais que c'est très cher.
C'est pas une raison pour ne pas aller voir ce spectacle.
Non, c'est vrai, je voudrais pas dire ça, mais par contre, voilà, vous pouvez venir à plusieurs. Si vous venez à 10, il y a des tarifs, voilà. À 10, c'est 10 euros.
Ah bon.
Eh bien, peut-être que nous allons pouvoir entendre la mise en abîme de Combo.
Non, peut-être d'abord un autre auteur russe très peu connu en France, Kourochkin. Mis en musique par un compositeur très peu connu en France, mais c'est un texte et une musique qui date exactement de l'époque de Tolstoï. Et le compositeur s'appelle Alexandre Dargomijski. Ça s'appelle Le Ver. Mais je vous dirai je ferai la traduction après.
Я всей душой к жене привязан, я в люди вышел, до чего я дружбой графа ей обязан, легко ли графа самого, делами царства управляя, он к нам заходит, как к родным. Какое счастье, честь какая! Ведь я червяк в сравнении с ним лицом таким, его сиятельством самим. Жена случайно захворает, ведь он, голубчик, сам не свой, со мною в проферанс играет, а ночью ходит за больной. Приехал раз в звездах сияя поздравить с ангелом моим. Какое счастье, честь какая! Ведь я червяк в сравнении с ним лицом таким, его сиятельством самим. Как он мил, когда он в духе, ведь я за рюмкою вина хватил однажды. Ходят слухи, что будто граф моя жена,
Граф, говорю, приобретая, трудясь, я должен быть слепым. Да ослепит и честь такая, ведь я червяк в сравнении с ним, в сравнении с ним лицом таким, его сиятельством самим.
Et voilà, donc je pense que c'est la première fois que ça passe sur les ondes de Radio Canu, et peut-être même sur toutes les ondes. C'était un compositeur, donc Alexandre Dargomichki, 1813-1869, sur un texte de Kourotchkin, qui s'est lui-même inspiré de notre vieux français, le premier des chansonniers, dit-on, Béranger, qui avait écrit un texte, Le Sénateur. Et c'est donc ce russe Kourotchkin, il a fait une adaptation, il l'appelait Le Vert. Et voici le texte. De toute mon âme, je suis attaché à mon épouse. Je me suis fait ma place dans la société. Que peut-on souhaiter de plus? Grâce à elle, j'ai gagné l'estime du comte. Vous vous imaginez? Du comte lui-même. Tout en gérant les affaires du royaume, il vient nous voir comme ses proches. Quel bonheur, quel honneur. Je ne suis qu'un ver à côté de lui, de cet être sérénissime. Ma femme tombe-t-elle malade? Le brave homme en est tout ému. Il vient, il joue aux cartes avec moi, et la nuit, il la soigne. Un jour, il est venu, arborant toutes ses décorations, pour me souhaiter bonne fête. Mais quel bonheur, quel honneur! Car je ne suis qu'un ver à côté de lui, à côté de cet être sérénissime. Et il est si gentil quand il est de bonne humeur. Une fois, buvant du vin avec lui, j'ai hasardé. Le bruit court que ma femme... Comte, je lui dis, en travaillant et en bâtissant ma fortune, je me dois d'être aveugle. Mais un tel honneur, un tel bonheur pourrait réellement m'éblouir, car je ne suis qu'un ver à côté de lui, à côté de cet être sérénissime, le comte. Je pense que Tolstoï aurait pas renié. Vous connaissez peut-être d'ailleurs.
Oui, sûrement. Alors, pas du tout. Alors là, tout très bien, très bon choix.
Et voici venir la chronique paysagère. Aujourd'hui, la mise en abîme est conjugale, justement. C'est en fait un extrait d'un livre écrit en 1990 qui s'appelle L'arme blanche, l'arme en un mot, et qui, c'est une suite de paraboles, en fait, sur les âges de la vie, de la naissance à la mort. Et il y a donc un texte, c'est une série de petites nouvelles, qui s'appelle Intégrale d'amour, et non pas Amour intégral. Et je vais en lire un petit extrait. C'est une tentative de mise en statistique et en probabilité du nombre de gestes qu'on peut répéter à force d'être célibataire ou en couple. Donc, c'est pris dans le courant du texte, donc. Hein. Ces différentes combinaisons se combinaient de cette façon à l'infini, ou du moins à une portée appréciable, et qu'il sera encore temps d'évaluer sur la prochaine page de ce livre. Car à ces combinaisons sportives, visuelles et sensitives se joignait un patchwork d'ondes acoustiques variables, cantilènes dissonants, se joignant à ces drames quotidiens. Ces chœurs accompagnaient les événements, les entrecoupaient, se superposaient à des déplacements d'ombre projetés sur les placards et le tralala précédemment évoqué, au point que les bruits escortaient les déplacements d'objets, tantôt le pommeau de la douche dans la soupente, tantôt l'escalier dans la douche, l'interrupteur dans la serrure, ou de la même façon, mais plus rarement, le rasoir dans le chevet. De là à dire que les sons émanaient de ces inanités, voire qu'ils s'adressaient à ces mêmes inanités, il y a une passe dans laquelle il serait bien hardi de s'engouffrer et qui réduirait à peu de choses les efforts déjà fournis pour planter le décor. Une voix invisible peut faire écho à la chorégraphie des choses au noumen inerte, d'une résonance symptomatique et péremptoirement inefficace. Oui, non, par exemple, pour aller au plus simple. Précisons. Les voix, dans les cas les plus fréquents, étaient monocordes, distinctes et tranquilles. Elles traitaient effectivement des objets présents ou d'autres, surtout sans, pourtant, d'après le timbre, les tenir dans une estime, en tout cas ostensible, opinion confortée. Conforté par le syndrome du déphasage quasiment systématique des propos sur les attitudes et phénomènes, c'est-à-dire que les scènes et leurs commentaires n'étaient pas simultanés, les anachronismes de situation étaient de rigueur. Il arrivait ainsi qu'un son s'éleva pour louer la robustesse des peintures d'évier, tandis que l'évier dévalait l'escalier. Escalier qui se mettait sur l'heure en devoir de l'accompagner jusqu'à la rue, elle-même à ce moment fluidifiée pour son passage dans le pommeau de la douche. Ou encore que l'église fuya les soupentes dans le cimetière en bordure de la Loire, au moment exact où il était question de compteur Gégère et du temps nécessaire aux marcheurs pour accéder des greniers au sous-sol. Régulièrement, donc, du moins, quand la présence des ombres se faisait sentir et qu'elles osaient émettre des ondes, deux séries de suites logiques se superposaient, pas forcément contradictoirement, mais enfin singulièrement. C'était le seul imprévu possible, imprévu toutefois prévisible statistiquement. Imprévu toutefois prévisible, prévisible statistiquement à partir d'une évaluation première du nombre de phénomènes et de propos tenus dans une journée. Soit 15 événements envisageables en tout et pour tout. Soit 15 thèmes abordables par les ombres et qui donc peuvent se superposer à chacun des 15 événements envisagés en tout et pour tout. Il est clair que 15 fois 15 égale 225. 225 situations sont raisonnablement imaginables. À raison de, mettons, 3 situations par jour, nous aurons 25 divisé par 3, 75 jours qui ne se répéteront pas, ce qui peut paraître peu. C'est qu'il faut considérer que les triplets sont en fait modulables. Les 3 situations du jour ne sont pas corrélatives. C'est pourquoi il convient de développer encore notre calcul en reconnaissant que nos 225 situations peuvent s'associer par 3 jusqu'à l'exhaustivité, ce qui fait en réalité sur la base de 3 situations par jour A exponentielle 3, exponent 225, 13 692 200 jours différents, autrement dit, sur la base de 15 événements et 15 argumentations possibles en tout et pour tout sur une journée, il se passera 36 488 années, 2 mois et 12 jours avant qu'une journée se répète. Cela faisait le merveilleux de ces côtoiements sans cesse renouvelés pour le bonheur de chacun de leurs éléments. Et la vie était une surprise incessante, du jamais vu à l'appel. Et qui vivra 36 488 années, 2 mois et 12 jours pour ressentir ce malaise, jusqu'ici imaginaire, car il n'a pas été calculé au bout de combien de temps deux vies seraient exactement identiques, le sentiment du déjà-vu. Qui n'est qu'un sentiment de plus dans la chaîne des argumentations, et on devrait menacer celui qui l'avance de faire passer à 16 le groupe des thèmes, avant de tout reprendre et finir par passer à 17 à cause d'une objection nouvelle et tout autant anachronique que les autres. Toute contestation ne nous encouragera qu'à procéder par un absurde de plus en plus approfondi. Mais voilà, il faut prendre en compte la marge d'erreur. Nos projets sont bientôt réduits à néant. Au milieu du tiroir, de la douche, de l'évier, des placards, du cimetière, de l'église, de la rue, de la Loire, du rasoir, des soupentes, en passant par l'escalier, la serrure, l'interrupteur, les courants d'air, les volets, la peinture, et le reste, l'articulé anachronique, chute une marge d'erreur qui discrédita le cycle entier et les 36 500 ans et le dénombrement des carreaux des WC, la galerie des portraits d'ombre sur le décor planté par les 3 millions d'années nous séparant du premier de nos prochains. Tant de siècles passés à ne pas, comme les animaux, nous répéter, pour tomber dans la marge d'un fleuve qui, par exemple, ne vaudrait plus tomber en pluie dans une douche d'une cuisine délavée par l'escalier jusqu'à la rue.
L'approfondissement de l'absurde par Combord. C'est un texte que tu as écrit ?
Oui, il y a bien longtemps. D'ailleurs, c'est à la machine à écrire. Hein.
En 1990.
À peu près.
Ok. Merci beaucoup.
Merci.
Eh bien, c'est l'heure donc de nous quitter. Marion a dû quitter le studio pour se rendre au travail, parce que c'est l'heure d'aller au boulot. Hein. Et puis, nous allons nous quitter également. Je n'ai pas l'émission de la semaine prochaine. Je ne peux pas vous la dévoiler aujourd'hui, mais je remercie. Merci beaucoup, Anne-Laure.
Merci beaucoup
pour
présence. Votre invitation.
Merci, Combord. Et puis, à la semaine prochaine à tout le monde.
Au revoir. On va vous laisser avec la bande continue de Radio Canu, composée par un certain nombre des animateurs de cette radio. Jusqu'à... C'est pas l'heure de l'émission.
17h, je crois.
17h. Bon après-midi à tous.